Ce sont des enfants qui sont nés dans un corps étranger et qui n'ont jamais été en phase avec leur sexe. Il s'agit d'un trouble qui provoque le désir de se débarrasser des caractères sexuels primaires. On parle de dysphorie de genre. On appelait ça avant le transsexualisme. France 5 diffuse ce soir « Devenir il ou elle », un documentaire remarquable sur les adolescents transgenres. C'est le dossier de la tête au carré aujourd'hui pour comprendre le parcours de ces adolescents, filles et garçons, qui contre vents et marées ont décidé de se battre pour imposer leur identité. J'attendais maintenant vos messages, vos questions, vos témoignages, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science cet après-midi, du sucre et des mouches.
Oui, une étude intéressante qui montre qu'un régime trop sucré chez la mouche accélère son vieillissement et modifie son ADN. On fait la comparaison avec l'homme, avec la professeure de nutrition Karine Clément.
Et puis en fin d'émission, nous retrouvons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy qui vient de découvrir qu'il était un proche de Donald Trump. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati avec Pierre de Certaine.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La question des transgenres cet après-midi, ce sera dans un instant dans le dossier de l'émission avec mes invités, la journaliste Lise Barnéou, le psychiatre et psychanalyste Serge Effez et Alexei, étudiant, né femme et devenu homme. Bonjour à
Bonjour.
Tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Alexei, vous êtes né fille, vous êtes donc devenu homme. À quand remonte pour vous cette sensation de n'être pas né dans le bon corps?
Cette sensation, elle remonte dès mon plus jeune âge, donc dès l'enfance. Mais j'ai pu vraiment mettre des mots sur ce que j'étais et sur la transidentité au moment de la puberté, légèrement avant, ouais. Où les changements deviennent irréversibles et où on cherche à tout prix à en sortir, à poser les mots sur ce mal-être en fait.
Lise Barnéou, c'est aux Pays-Bas que vous avez découvert la question des transgenres.
Oui, tout à fait. C'était en 2014. J'avais découvert l'hôpital d'Amsterdam, pionnier dans l'accompagnement de ces jeunes transgenres, qui propose depuis le début des années 2000 un traitement tout à fait nouveau pour la France, qui bloque la puberté de ces jeunes pour leur laisser le temps de réfléchir et surtout pour ne pas vivre les transformations non souhaitées de la puberté.
Serge Effez, justement, pour un médecin en France, aider aujourd'hui à transformer le corps d'un enfant, ça reste une démarche très atypique.
C'est très atypique, c'est très peu connu en France. Il y a peu de centres qui se sont développés pour l'accueil de ces enfants. On en est au balbutiement à Paris. Il y a trois grandes unités entre la Salpêtrière, l'hôpital Robert Debré et la Fondation Vallée qui se réunissent depuis un petit peu plus d'un an maintenant pour étudier les dossiers et pratiquer des protocoles comme par exemple de bloquer la puberté. Mais tout ça est très nouveau.
Allez, on va se retrouver donc dans un instant autour de ce documentaire « Devenir il ou elle ». Ce sera donc ce soir, 20h45 sur France 5, pour comprendre ces troubles du genre et puis voir également comment se fait la transition entre les deux sexes avec vos messages sur le site de La Tête au Carré. Quand le sucre laisse des traces dans l'ADN, une étude intéressante sur l'alimentation et le vieillissement à la une de la science.
Bonsoir, en titre, Springfield se retrouve à tout jamais privé de bonbons. En vertu d'un texte baptisé Loi Marge, tout produit sucré est désormais interdit.
Merci beaucoup, Erin Burikovitch.
Je voulais seulement que les gens en consomment moins parce que c'est nocif.
Ouais, t'as réussi ton coup, crétine Brokovitch.
Voilà un extrait des Simpsons avec la chasse au sucre pour introduire cette étude originale et très sérieuse publiée aujourd'hui dans la revue Cell Report et qui montre qu'un régime riche en sucre accélère le vieillissement, attention chez la mouche, mais surtout laisse des traces dans l'ADN, des marques qui persistent lorsque le régime alimentaire change. Et une étude qui vous a beaucoup intéressé, Karine Clément, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de nutrition à la Pitié. Oui, on en parle avec vous cet après-midi. Oui. Vous êtes donc professeur à la Pitié Salpêtrière. Expliquez-nous d'abord la méthodologie, ce que les chercheurs ont fait à ces mouches.
Alors effectivement, la mouche, c'est intéressant parce qu'on peut la regarder et surtout on peut regarder assez rapidement sa survie. Et donc en fait, on compte des mouches dans un bocal. Donc de façon technique, c'est assez intéressant. Et ce qu'ils ont fait, c'est l'originalité du travail, c'était de soumettre ces mouches, la drosophile, à un régime riche en sucre. Alors quand même assez important, mais durant 3 semaines. Et ensuite de leur switcher leur régime, c'est-à-dire de revenir à leur régime habituel. Et donc de les comparer en fait finalement à des mouches qui n'avaient pas reçu ce régime très riche en sucre, et en l'occurrence ici en ce qu'on appelait autrefois les sucres rapides, c'est le sucrose. Mmh. Et donc ce qu'on voit, c'est que même si, effectivement, on revient au régime antérieur, hein, c'est-à-dire ces mouches qui ont reçu le régime riche et puis qui sont revenues à leur régime habituel, lorsqu'on les suit, eh bien, en fait, il va y avoir une augmentation de leur taux de mortalité.
Pendant combien de temps elles ont eu du sucre pour essayer de transposer à l'échelle humaine ?
Alors ça, c'est très difficile. Donc, ce qui a été fait, chez la mouche, c'est 3 semaines. Mais bien évidemment, c'est effectivement, dans ce cas-là, c'est très très court. Mais transposer, il y a deux choses. Il y a la durée, d'une part. Et puis, il y a également le fait que c'était beaucoup. Elles ont reçu 8 fois plus de sucrose que le bras contrôle, si vous voulez.
Karine Clément, où est-ce que se cache la signature du régime sucré dans la mouche qui arrête de manger du sucre ?
Alors effectivement, ça c'est également un des beaux résultats de cette étude, même si c'est pas complètement nouveau. Ce qu'ils ont montré, c'est que ça mobilisait un facteur de transcription qui s'appelle FUXO. Alors les facteurs de transcription, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petites protéines qui se mettent sur les régions régulatrices des gènes et qui vont induire, au contraire diminuer, toute une série de gènes qui sont importants pour en l'occurrence ici le métabolisme et également le vieillissement. Et en fait, FUXO, c'est assez intéressant parce que c'est des mécanismes, ils sont impliqués dans des mécanismes assez fondamentaux de la régulation cellulaire. Et en fait, ce qu'ils voient, c'est que même à distance, c'est-à-dire lorsque ces mouches ont reçu beaucoup de sucre, FUXO va être diminué. Et ça va rester, en fait, même quand les mouches reviennent à un état antérieur.
Mais ça sert à quoi, FUXO, alors, exactement ?
Alors, c'est un facteur de ce qu'on appelle facteur de transcription qui est impliqué dans beaucoup de processus, notamment liés au vieillissement, vieillissement de la cellule, ce qu'on appelle également le stress cellulaire, le stress oxydant, et également le cycle cellulaire. Et donc, il y a des travaux, c'est pour ça que quand je disais que c'est pas complètement nouveau, parce qu'on commence à connaître beaucoup de choses déjà sur FUXO, et aussi le fait que en manipulant ce facteur, avec d'autres, c'est assez complexe, mais avec d'autres facteurs, on pourrait reprogrammer la cellule. Donc il y a pas mal de travaux dans le monde qui s'intéressent en fait à ce facteur de transcription.
Est-ce que ce gène en question, là, FUXO, est présent de la même façon chez l'homme et chez la mouche ?
Oui, absolument. Il y a des équivalents chez la mouche, dans les vers, qu'on appelle C. elegans, chez les mammifères et chez l'homme. Il y a le même type de gène.
Ça voudrait dire qu'on pourrait garder la même trace d'un excès de sucre pendant quelques mois ou quelques années ?
Alors, ce qui est tout à fait troublant, effectivement, dans cette étude, c'est le fait que ici, par l'induction de sucre, effectivement, on garde cette trace, si vous voulez, cette trace au niveau de l'ADN, cette trace moléculaire, effectivement, chez la mouche. Et il y a des expériences qui avaient été faites de la même façon avec des protéines. Et quand on revenait à l'état intérieur, en fait, on perdait cette signature. Là, on voit qu'on conserve en chez ces mouches, et également d'ailleurs chez le ver, chez l'élégance, parce que dans cette étude, ils ont confirmé ça chez le ver, on conserve en fait cette signature. Donc ça montre un lien entre finalement l'histoire alimentaire, ici en l'occurrence la consommation de sucre chez la mouche, et la survie, et l'implication également dans les tissus.
C'est une belle histoire d'épigénétique, Karine Clément, finalement.
C'est ça, bien sûr, puisqu'en fait, l'épigénétique, il y a beaucoup de travaux dans ce domaine aujourd'hui. Ce sont ces phénomènes qui parlent ici, la modification de la nutrition, vont ouvrir ou fermer l'ADN. Et en fonction de l'ouverture ou de la fermeture, tous ces facteurs de transcription, comme FUXO ici, vont permettre d'induire l'expression de beaucoup, beaucoup de gènes qui vont impacter en fait dans notre fonctionnement cellulaire.
Est-ce qu'on connaît d'autres exemples chez l'homme de signatures dans l'ADN induites par une alimentation particulière ?
Alors ça, c'est très complexe parce que forcément, il y a tellement de facteurs alimentaires, environnementaux qui sont susceptibles d'être modifiés. Ce qu'on connaît, par exemple, c'est des modifications épigénétiques même au moment de la conception, vous voyez, même du sperme. Et en fonction du degré d'obésité, même du père, souvent on incrimine les mères, vous voyez, même les pères au moment de la conception, en fonction de leur niveau de poids, peut influencer à long terme, là il y a eu des études épidémiologiques là-dessus, et épigénétique pourrait influencer le devenir des enfants. Donc ces signatures existent. Maintenant, le lien moléculaire direct entre j'ai consommé de trop de sucre à un moment donné et cela impacte sur mon vieillissement, j'entends chez l'homme, c'est très bien sûr difficile à faire.
On le voit chez la mouche, clairement, sur l'espérance de vie, mais chez l'homme, prudence quant à la transposition.
Chez l'homme, prudence. puisque forcément ces modifications alimentaires font partie d'un ensemble de profils alimentaires. On voit bien que effectivement, lorsqu'on consomme d'un excès de sucre et vous voyez dans les sodas ou des choses comme ça, ben souvent c'est associé à d'autres modifications du comportement alimentaire. Donc c'est toujours difficile hein, de faire une relation directe entre ces consommations et l'impact, et en particulier sur l'aspect moléculaire. Mais je trouve ce qui est intéressant dans le concept, c'est cette notion de signature au niveau de notre ADN et puis au niveau de la cellule et potentiellement du tissu.
Et est-ce qu'il serait envisageable de faire cette même étude du lien entre la consommation de sucre et la modification de Foxios chez l'homme? On pourrait le faire?
Alors, on pourrait le faire lors d'études d'intervention nutritionnelle, si en regardant l'expression des gènes et de la famille des gènes de FOXO. Alors, ce qui est compliqué, c'est que ces facteurs de transcription, bon là, c'est régulé en termes d'expression. On regarde les changements, ça monte, ça descend. Mais on peut regarder aussi les gènes qu'on appelle cibles. Quels gènes sont induits par l'augmentation ou la diminution de FOXO. Donc, bien sûr, il y a des expériences. D'ailleurs, certaines ont été faites de perte de poids ou de reprise de poids, par exemple, ou modulation alimentaire, on peut regarder l'expression des gènes. On a accès aujourd'hui à ce type d'outils de façon très large, hein, notamment par le séquençage de l'ARN, par les puces, qu'on appelle les puces ADN. Donc on peut avoir un accès, bien sûr, à ce type d'informations. La question, c'est quel est le bon protocole pour montrer qu'effectivement, il y a une relation.
Merci beaucoup pour votre éclairage, Karine Clément, avec cette étude donc, qui vient de paraître aujourd'hui même dans la revue Cell Report. Merci à vous. Bonne journée. Et à demain, Axel.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la régénération dentaire stimulée par un médicament contre la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, lorsqu'une dent est trouée suite à une carie, par exemple, les dentistes utilisent des ciments pour combler le vide. Ce ne sera peut-être plus le cas dans quelques années. En effet, des scientifiques du King's College de Londres ont découvert un moyen de dynamiser notre production de dentine, la substance composant l'intérieur de la dent. Le nouveau traitement pourrait être rapidement utilisé en clinique, la stimulation étant réalisée avec une molécule déjà testée pour lutter donc contre Alzheimer. L'effet Mpemba en voie d'être expliqué. Vous avez probablement entendu parler de cet effet lorsque vous avez voulu fabriquer des glaçons. L'eau chaude gèlerait plus vite que l'eau froide. Le problème est vieux comme Aristote, mais il restait néanmoins inexpliqué. Eh bien, des chercheurs texans proposent aujourd'hui une solution. En étudiant les liaisons entre les atomes de la molécule H2O, ils ont réalisé que sa solidité dépendait de la température. Dans l'eau chaude, une partie des liaisons est brisée. Ainsi, pour se réarranger en glaçons, une eau froide doit casser plus de liaisons et donc gèle plus lentement que l'eau chaude. Cette différence serait donc une explication élégante de l'effet Mpemba. Et puis en 2022, vous verrez peut-être deux étoiles fusionner puis exploser dans le ciel. C'est l'annonce faite par une équipe d'astronomes lors du congrès annuel de la Société américaine d'astronomie. Ils ont étudié pendant 3 ans le duo d'étoiles Kik 98-32-227, c'est son nom, et ont observé que celle-ci tournait dans un ballet de plus en plus rapide et de plus en plus rapproché. Les scientifiques ont calculé donc qu'aux alentours de 2022, les deux étoiles devraient fusionner pour exploser et former une géante rouge lumineuse, explosion stellaire qui sera l'occasion d'un spectacle monumental de plusieurs mois et qui sera visible à l'œil nu. La question des transgenres dans le dossier de la tête au carré aujourd'hui.
Okay, we be fighting, we be reuniting. Kiss me. I need you. Play your game today, might take it to an Ivy League school. Won't get Hall of Fame from minor league, dude. I'd see peace if other people need food. Only got a little time and I ain't trying to spend it. All you in about who ain't giving who attention. Starting up the engine, need to reboot. I'd see peace if other people need food. It's complicated keeping me up late. Can't concentrate, you're always on my brain. If it's love, then why the fuck come with pain? I just think that's some bullshit. Okay, I seem inviting, trust me, she's a titan. This week she like them, next week they fighting. Need protection, all your dress is bulletproof. You're safe with me, girl.
Can't keep on losing you.
Where the hell you going? Where you taking this trip to?
Wait,
don't move, don't say to.
I can't keep on losing you.
Where the hell you going?
Wait,
where the hell you going?
I can't keep on losing you. Over complications, gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing.
Can't keep losing you.
C'est vraiment, oui, la puberté, c'est vraiment le moment où on se rend compte que voilà, notre corps commence à évoluer de la mauvaise façon. Et c'est l'élément déclencheur pour moi. J'ai commencé par faire des recherches sur Internet avec des phrases qui étaient un peu... Enfin, je tapais un peu ce qui me passait par la tête, par exemple, je veux devenir une fille ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure, mes recherches se sont précisées et je suis tombée sur des témoignages d'autres filles transgenres ou de garçons transgenres et je me suis reconnue dans leur histoire.
La voix de Léna, extrait du documentaire Devenir il ou elle, que vous verrez donc ce soir sur France 5 à 20h45. Mes invités pour parler donc des adolescents transgenres cet après-midi dans l'émission, Lise Barnéou, donc journaliste scientifique, auteur avec Lorraine de Bézieux de ce documentaire, qui sera d'ailleurs suivi d'un débat ce soir. Serge Effez, psychiatre et psychanalyste, responsable de l'unité de thérapie familiale à la Pitié-Salpêtrière. Et donc Alexei, 20 ans, étudiant en STAPS. Je le disais tout à l'heure, vous êtes né femme, vous êtes devenu homme. On appelle ça FTM, c'est ça? Female to male? C'est
exactement. C'est le terme qui est employé. Femme vers homme.
Et les auditeurs, donc, ils nous rejoignent avec les messages et les questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Lise Barnéou, un film avant tout qui s'intéresse aux adolescents transgenres. C'est évidemment cet éclairage que vous souhaitiez apporter hein, pendant toute la durée du tournage.
Oui, c'est vrai qu'on parle peut-être de plus en plus hein, des transgenres, mais surtout des transgenres adultes.
Ouais.
Et jusqu'à présent, les trans enfants, adolescents restaient vraiment invisibles. Et pourtant, tous les trans adultes le disent. Ils ressentent ce sentiment depuis leur plus jeune âge. Donc ça nous paraissait vraiment important de tourner notre caméra et de donner la parole à ces jeunes qui vivent des moments très difficiles au moment de la puberté.
Ouais. Est-ce que c'était facile de les trouver et qu'ils acceptent de vous parler d'eux?
Non, c'était pas si facile. On s'est beaucoup servi des associations comme le MAG dont fait partie Alexei. On s'est servi des réseaux sociaux. Une des difficultés, ça a été de trouver des mineurs dont les parents acceptent.
Ouais.
Voilà, donc forcément, il y a un biais hein, qu'on assume aussi, mais qui est que les mineurs qui sont dans notre film sont donc accompagnés par leurs parents. Et certains mineurs à qui on a parlé, mais dont les parents refusent catégoriquement à la fois leur destin et leur participation au film. Donc on a fait que discuter avec ces jeunes qui malheureusement n'apparaissent pas dans le film.
Serge Effez, la parole des parents, hein, on l'entend aussi, et c'est très courageux aussi de leur part de se montrer face à la caméra.
C'est très courageux parce que les parents vivent avec leurs jeunes un parcours du combattant, un parcours pour accepter, pour comprendre déjà, ouais, pour ne pas rejeter, pour accepter et puis pour ensuite supporter tout le reste. C'est-à-dire ouais, supporter tout le parcours médical bien sûr, mais aussi supporter le voisinage, les amis, la famille, les grands-parents, enfin tous ceux à qui il faut faire accepter cette transition. Et les parents sont aux premières loges pour accompagner le jeune autour de ça. Et je dirais que c'est cette volonté des parents qui est le gage sans doute de la meilleure réussite de cette transformation.
Ouais. Alexei, alors vous faites partie justement de ce documentaire. Est-ce que selon vous, d'abord, la question a été bien traitée dans ce film, que vous avez vu d'ailleurs hier soir, il y a eu une projection avec toutes les personnes qui témoignent justement. Et est-ce qu'on retrouve bien vos parcours, selon vous, dans ce témoignage ? Vous aviez envie de faire entendre vos voix, c'était important pour vous ?
Je pense que oui, c'est important parce qu'effectivement, on en parle très peu et que pour que ce soit accepté à l'avenir de mieux en mieux, il faut qu'on en parle, il faut qu'on soit vu et entendu. Mm-hmm. Donc par rapport à ça, oui, je trouve que le documentaire a très bien, enfin plutôt bien traité le sujet, la question, et c'était important voilà, de mettre en lumière le parcours de jeunes ados et de voir d'où ça démarre, d'où ça commence et justement le parcours, tout ce qu'on traverse et ce par quoi on passe. Donc par rapport à ça, oui, je trouve que la question a bien été traitée, les profils bien choisis.
Ouais.
Après voilà, faut pas. Je trouve que c'est des jeunes qui avaient quand même justement des parents qui étaient derrière eux pour la plupart, et que c'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a des jeunes qui ont pas leurs parents qui les soutiennent, qui sont vraiment tout seuls face à tout ce parcours.
Il y a Elena.
Il y a Elena
qui incarne peut-être ce profil.
Un petit peu plus, mais ouais. Encore que bon voilà, elle a trouvé refuge dans une association. Là voilà.
Donc, ouais. Mais on sent qu'il y a beaucoup de solitude quand même.
On sent voilà, qu'il y a la solitude, qu'elle a eu quand même plus de difficultés à avoir accès à toutes ces démarches.
Serge Fèze, beaucoup de solitude souvent chez ses enfants.
Beaucoup de solitude, beaucoup de souffrance, beaucoup de rejet. C'est quand même des jeunes et des enfants pour qui sont surmultipliés les tentatives de suicide, les scarifications, les attaques d'eux-mêmes, les parcours qui se marginalisent, etc.
Et même chez des enfants soutenus par leurs parents, parce qu'on voit justement Lucas qui s'est automutilé alors qu'il a pourtant des parents qui le...
C'est aussi parce qu'au début il y a une intériorisation de ce mal-être avant de franchir ce cap d'en parler justement et de trouver du soutien extérieur. On se retrouve d'abord confronté à soi-même, il y a déjà toute cette phase de compréhension, qui on est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça nous arrive à nous, pourquoi on est comme ça et pas comme tout le monde. Et ensuite de faire ce premier pas vers l'extérieur, de savoir est-ce que on va être écouté, est-ce qu'on va être soutenu ou est-ce qu'au contraire on va être rejeté. C'est plein de questions qui font qu'on n'y va pas tout de suite, quoi. Il y a un délai d'attente et pendant lequel il va y avoir toute cette surprise.
Vous dites y aller, ça veut dire quoi au fond? Y aller tout de suite,
hein. Y aller, franchir ce pas. Enfin, moi je sais que
franchir ce pas de
faire un coming out, d'en parler.
D'en parler déjà.
Parce qu'au final, on sait que c'est ce qu'on voit, que tout seul et avant la majorité, ou du moins en France, on va pas vraiment très loin. Effectivement, on n'a pas accès comme dans d'autres pays où c'est un petit peu plus avancé l'accompagnement des enfants transgenres, l'accès à une hormonothérapie ou voir un psychiatre, etc. Ouais. Tout ça, on le fera pas tout seul. Il faut qu'il y ait les parents derrière. Et donc, il faudra forcément passer par cette étape de communication et de coming out, comme on dit. Et cette étape-là, avant qu'elle soit franchie, il y a plein de stades qui se passent.
Lise Barnet, vous pardonnez-moi la naïveté de ma question, mais à partir de quand, au fond, on devient transgenre, alors?
Alors ça, c'est peut-être une question qu'il faut plutôt poser à mon voisin, mais moi, je dirais qu'on devient transgenre à partir du moment où on s'assume et où on fait ce passage. À moins que finalement, on est transgenre dès le début.
Je pense pas vraiment qu'on le devienne. C'est pas une phase, on est là, puis on devient quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qu'on est. Après, on va le ressentir plus jeune ou moins jeune, puis il y a d'autres facteurs qui vont faire.
On a le sentiment, en tout cas, qu'il y a différentes étapes qui vont jusqu'au changement de sexe anatomique, mais qu'en tout cas, vous passez par différentes phases très nombreuses qui caractérisent votre identité aussi.
Oui, je suis d'accord avec ça. Après, je pense que le moment où ça va vraiment, enfin, on va vraiment le ressentir, ça va être justement cette étape clé un peu de la puberté, même si plus jeune, il y en a beaucoup qui se sentent déjà, qui sont dans le mauvais corps, etc. Mais moi, par exemple, dans mon enfance, j'ai eu une enfance plutôt sereine parce que les sexes sont pas encore marqués. Filles, garçons, on s'en rend pas vraiment compte. Je veux dire, on a ses copains, son groupe d'amis garçons, on a les jeux. Bon, après, les familles sont plus ou moins conservatrices, donc vont plus ou moins aller dans notre sens. Mais je me souviens que moi, par exemple, je veux dire, j'avais les jeux que je voulais, j'allais à la plage, j'étais en slip de bain. Enfin, je veux dire, j'avais aucun souci. Il n'y a pas encore trop de regards qui pèsent. Mmh. Et la différence au niveau des corps n'est pas marquée encore non plus. On voit une petite fille, on voit un petit garçon, il y a peut-être les cheveux longs, les cheveux courts. Mais sinon, on est un peu tous au même stade.
Ouais. Serge Fèze.
Oui, oui.
Qu'est-ce que être transgenre au fond, alors? C'est compliqué, hein.
Être transgenre, c'est une conviction. Voilà. C'est une conviction intime, une conviction intérieure qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps qu'on habite. C'est la conviction qu'on serait mieux, qu'on serait plus heureux, qu'on serait plus épanoui, qu'on serait plus soi-même, qu'on correspondrait plus à son identité en étant de l'autre sexe. Parce que s'interroger sur ce que c'est qu'être fille, garçon, des filles manquées, etc., des garçons qui sont un petit peu féminins, des filles un petit peu masculines, il y en a des tas dans les cours de récréation qui en souffrent plus ou moins. Mais quand on est dans cette vision où vous avez des petits garçons qui s'arrachent leurs vêtements quand on leur met des pantalons pour aller à l'école, tellement ils ont la conviction que c'est une robe qu'ils doivent porter et qu'il est hors de question pour eux de s'habiller autrement. C'est-à-dire, ça touche vraiment les profondeurs de leur intimité. Ou une petite fille, ou même pour un mariage, on la supplie de se mettre en robe, mais c'est impossible pour elle parce que ça serait comme un viol de porter cette robe parce qu'elle veut porter un pantalon parce qu'elle se sent garçon. Là, on est dans une autre dimension de l'identité. Et cette conviction, moi, c'est ce qui me frappe le plus chez ces jeunes quand je les reçois, parce que dès la salle d'attente, dès que je les fais rentrer dans mon cabinet, il y a quelque chose qui se voit. Et c'est pas le fait d'avoir des traits un peu féminins pour un garçon, ou des cheveux un peu longs, ou des cheveux un peu courts. Ça ressort dans le visage, cette conviction qui est « Ah, j'ai affaire à un garçon ou j'ai affaire à une fille ». C'est très troublant.
Et on sent, Lise Barnéou, chez tous ces adolescents, une force de caractère et une maturité, surtout chez les plus jeunes d'entre eux, qui est assez flagrante quand même.
Tout à fait, oui. Nous, avec Lorraine de Bézieux, ça nous a vraiment marqué et bouleversé de voir cette force de caractère, cette détermination. Et ce, dès... moi, c'est vrai qu'on a rencontré des enfants de 10-12 ans. À cet âge-là, ils sont convaincus de qui ils sont, de ce qu'ils veulent devenir. Et c'est un âge où la plupart d'entre nous, on ne s'est jamais posé ce genre de questions.
C'est ça, je pense que très jeune, on est confronté à justement des questions que les autres de notre âge ne se posent pas. Enfin, ça leur est même pas venu à l'esprit, ou que brièvement, partiellement, et qu'on envisage déjà des démarches, tout un parcours qu'on s'est renseigné dessus, on le connaît, chirurgical, hormonal, enfin, qui implique, enfin voilà, des transformations corporelles, des traitements sur du long terme. Et c'est des choses que les autres jeunes de notre âge c'est des questions qui se posent même pas, en fait. Ça leur traverse même pas l'esprit.
Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette transformation chirurgicale sur laquelle on est beaucoup focalisé, parce que d'ailleurs c'est celle qui est demandée par rapport à l'état, qui était demandée jusqu'à récemment par rapport à l'état civil pour pouvoir changer même de prénom, et qui est ou pas l'aboutissement de ce parcours de transformation. C'est pas forcément ça qui est le plus important, hein. C'est toute cette transformation sociale qui se produit dans un premier temps, être reconnu par les autres comme étant de l'autre sexe, toute cette transition sociale qui se fait au collège, qui se fait au lycée, où on vous appelle d'un autre prénom, on vous regarde comme un garçon ou comme une fille, alors que ça n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est toute cette transformation, c'est toute cette métamorphose qui est la plus importante. Je dirais que il n'est plus nécessaire aujourd'hui de se focaliser sur la transformation chirurgicale pour dire « Ah, on est vraiment dans une question transgenre ».
Alexei, vous êtes d'accord avec ça? C'est le point de vue de vos camarades adolescents transgenres aussi?
Oui, justement, c'est pour ça que beaucoup de personnes transgenres se battent aussi, c'est de retirer un peu ce point de vue médical, ce que vous disiez à l'instant, des opérations, du traitement hormonal, que effectivement, je suis d'accord avec ce que vous disiez, ça débute bien avant, et que on est considéré, nous-mêmes, on se sent homme, enfin, ça va bien avant
Mais est-ce que quand même l'étape ultime est recherchée par tous, c'est la transformation physique ou pas?
Pas par tous. Ouais. Non.
D'après les études des associations, c'est seul 20% des trans qui font toutes les opérations.
Ah oui, c'est peu.
C'est
oui,
peu
oui,
finalement.
C'est très peu, absolument. Oui. C'est une idée tout à fait fausse d'imaginer, encore une fois, cette transformation chirurgicale comme étant le nec plus ultra de la question transgenre. Ouais. C'est une vraie question identitaire, en fait.
Yac sur Twitter nous dit « Le traitement qui bloque la puberté, est-ce que ça voudrait dire que les adolescents ne grandissent plus ?»
Alors, non, ça met les choses un petit peu en veilleuse, hein, ça retarde la puberté, mais ça ne détruit pas la croissance. Hein, c'est-à-dire que dès que la puberté repart, eh bien la croissance repart tout autant.
Une question pour le psychanalyste de Luce, est-ce qu'on trouve une corrélation entre le désir de fille ou de garçon déçu des parents et le malaise de genre des enfants?
Eh bien non, désolé, ça serait trop simple, ça serait trop simple si les parents pouvaient s'accuser eux-mêmes en disant « mais bon sang, bien sûr, je voulais une petite fille, j'ai eu un petit garçon et c'est pour ça ». Non, ça n'est pas ça qu'on retrouve avec régularité.
En tout cas, rôle des parents déterminant, Alexei, dans un tel parcours de vie?
Je pense que c'est très important d'être accompagné et soutenu, en fait. Cette partie-là, je veux dire, si on est nous-mêmes confrontés enfin, je dirais tout le parcours, tout ça, c'est assez compliqué. Toutes les questions qu'on se pose déjà, et d'avoir un soutien familial, en tout cas la famille proche, le fait qu'elle soit là et qu'elle nous accompagne vraiment dans nos démarches, je pense que c'est déterminant et vraiment très important.
Lise Barnéo.
Oui, aux Pays-Bas, c'est même un critère pour pouvoir démarrer des bloqueurs de puberté en étant mineur. Il faut être accompagné soit par les parents, soit par des proches. Sinon, les enfants ne sont pas acceptés dans les programmes. Oui. Sinon, ils savent que ce sera un échec.
Oui, ce qui est difficile, parce qu'on voit en France, justement, et le cas d'Elena, hein, elle n'est pas soutenue justement par sa famille.
Et pourtant, elle a dû attendre sa majorité.
Exactement.
Et elle le regrette amèrement.
Ouais. Le témoignage des parents, il est très important. Leur voix, on l'entend justement dans ce documentaire. On va entendre tout de suite les parents de Lucas, donc dans Devenir il ou elle.
Le transgenre ne change pas d'identité. C'est que j'aimerais tellement qu'on comprenne ça. C'est que la personne, elle est la même. Donc on ne perd pas quelqu'un. Il est là. C'est juste qu'elle s'habille en bleu au lieu d'en rose, quoi. Bah, c'est pas grave. Voilà. Moi, je trouve que
Je suis pas tout à fait d'accord là-dessus avec Flora.
Je suis...
Moi, j'ai un peu... Je le dis pas trop, mais... Il y a un peu un truc qui s'est... C'est autre chose, on va dire. Je dis pas que c'est... C'est pas une perte, dans le sens où c'est pas un amoindrissement ou un... C'est... Mais il y a un truc qui sera clairement plus le même et par moments ça me pèse un peu.
Il est très touchant, hein, ce père, parce qu'il essaie d'exprimer ce qu'il ressent profondément, tout en préservant aussi par les mots, hein, son enfant.
Oui.
Serge Effèze, c'est pas facile, évidemment.
Mais évidemment,
pour un parent.
C'est pas facile. Tout ce qu'on projette sur les petits garçons et les petites filles, on le sait bien. Et ça commence même avant la naissance, hein, puisque dès l'échographie, la plupart des parents veulent savoir si c'est un garçon ou une fille. Mmh. C'est parce que c'est une usine à projection, un enfant. C'est-à-dire que voilà, on va projeter toute une histoire, tout un avenir, tout un tas de personnages sur lui. Et donc, tout ce travail qui a été fait sur un petit garçon ou une petite fille pour imaginer l'homme ou la femme idéale qu'il allait devenir, ben il faut refluer par rapport à ça, il faut revenir en arrière et refaire un autre travail de projection. C'est donc comme à la fois un travail de deuil et de renaissance, hein. C'est à ça à quoi beaucoup, surtout les pères d'ailleurs sont confrontés à ça, et je dirais surtout les pères de garçons qui veulent devenir des filles, c'est-à-dire que c'est un véritable arrachement pour eux. Ils se sont prolongés dans un garçon et puis il va falloir qu'ils apprennent à se projeter dans une petite fille.
Alexei, comment ça s'est passé chez vous avec vos parents?
Donc moi, je vis avec ma mère, et puis j'ai fait mon coming out à ma mère, et puis ça s'est bien passé. Je veux dire, c'était dans l'émotion. Je veux dire, c'est toujours un choc, une grosse information qui tombe, mais elle est pas tombée des nues non plus. Elle s'en doutait, et puis très tôt elle s'est posé des questions. Elle se disait qu'il y a quelque chose qui était différent chez moi, mais pour elle ça a pas été un deuil, ça a plus été une continuité. Parce que ça allait un peu dans la suite logique des choses. C'est vrai que j'avais une apparence déjà très masculine. Depuis enfant, on sortait, c'était déjà jeune homme partout, et puis elle reprenait les personnes. Donc, elle n'est pas tombée des nues. Mais il y a quand même tout un travail à faire sur le fait que c'est quand même son enfant, et j'étais quand même sa fille, malgré tout. Et que même si j'étais une fille un peu plus masculine, je restais sa fille.
Ouais.
Donc, il y a quand même un travail à faire.
C'est difficile pour vous de dire votre prénom d'avant ou pas?
Oui, je le dirai pas d'ailleurs, parce que je pense que ça intervient pas du tout.
Jamais dans le documentaire on entend justement les.
Je trouve ça très bien justement que ça a été respecté, parce que voilà, on prend les personnes pour ce qu'elles sont, et puis ce qui fait partie de leur vie d'avant quelque part. Enfin, voilà, ça pas être...
Comme regarder des photos d'avant aussi, hein. On voyait Lucas justement regarder des photos avec sa maman dans un album. On sent que ce moment est plutôt désagréable pour lui.
Plutôt désagréable. Après, certains le font plus volontiers que d'autres. Ouais. Certains n'ont pas tourné la page non plus sur ce qu'ils étaient quand ils étaient enfants.
Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages pour vous de la part des auditeurs. Messages que je vous transmets dans un instant et qui arrivent sur franceinter.fr, également sur Twitter avec le mot-clé l'attaque. Le temps d'écouter Flash avec l'escope.
Aveuglante, flash, une lueur dans tes yeux.
Télescope sur France Inter.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Devenir il ou elle, c'est donc ce soir, hein, Lise Barnéou, 20h45 sur France 5. Je vous souhaite une très belle audience parce que ce documentaire le mérite très très largement avec une discussion qui sera suivie, animée par Marina Carrère-Dancos. Et puis donc nos invités aujourd'hui, Serge Effez, psychiatre et psychanalyste, et Alexei, donc 20 ans. Vos messages nombreux. Estelle demande s'il y a un marqueur génétique dans certains cas de dysphorie de genre. Alors, Serge Effez et Lise,
pas à ma connaissance.
Non, alors aux Pays-Bas, ils font des études sur l'origine de ce trouble. Ils ont des pistes plutôt sur l'imprégnation hormonale dans la vie intra-utérine. Mm-hmm. Et puis, on sait, ils ont des indices qu'effectivement, la génétique peut avoir son mot à dire, mais pour l'instant, non, évidemment, il n'y a pas un.
Les pistes, justement, autour du cerveau aux Pays-Bas, on écoute un extrait du documentaire.
Concernant la cause de la dysphorie de genre, beaucoup de personnes transgenres ont le sentiment que ce n'est pas un choix, mais quelque chose d'inné. Et donc, pour eux, il est logique que ce soit lié au cerveau. D'ailleurs, on trouve ici aux Pays-Bas les études d'un chercheur en neurologie datant déjà de la fin des années 90 et qui montre que le cerveau est peut-être impliqué dans le fait d'être transgenre.
Voilà, le docteur De Vries donc, de l'hôpital d'Amsterdam sur une piste possible. Alexei, est-ce que vous aimeriez justement que la science apporte des réponses claires à la question du transgenre? Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, sur la question de l'homosexualité, les gays américains sont très demandeurs d'explications sur la génétique, par exemple.
Moi, personnellement, j'en ai pas forcément besoin, mais je pense que ce serait plutôt pour les parents, en fait. Et je pense que c'est une demande des parents. Mmh. Moi, je sais que ma mère, elle m'avait accompagné à une séance... chez mon psychiatre, et qui lui demandait justement d'où ça vient et comment on peut être sûr. Et en fait, ce fait de trouver une explication médicale, un peu de pointer du doigt, de dire ça vient de là,
ce serait rassurant
pour les parents et sur le fait d'être sûr, en fait.
Déculpabilisant.
Voilà. De les déculpabiliser d'une part que ça vient pas d'eux, et surtout d'être sûr que c'est le bon choix et que l'enfant ne changera pas d'avis. C'est souvent ce que les parents enfin ce dont ils ont peur, et que c'est bien la bonne décision qui est prise. Ou, voilà.
Qu'est-ce que j'ai fait à mon enfant ? Ce sont des réflexions que vous entendez, ça,
évidemment, c'est difficile que les parents ne s'interrogent pas, de la même façon que pour le simple cas de l'homosexualité, les parents s'interrogent aussi toujours. Mais moi, ce qui me paraît important de dire, c'est qu'il y a tellement de formes multiples de sexualité, de bisexualité, d'homosexualité. Il y a tellement de formes multiples d'identité, d'avoir certains traits, de se reconnaître pour certains traits comme étant plus féminin, plus masculin, etc. Convoquer la génétique qui fonctionnerait en mode binaire, ça me paraît un petit peu simplé par rapport à ça, par rapport à cette complexité de l'identité, justement. Et aujourd'hui, ce que nous montrent justement ces questionnements transgenres encore plus, c'est qu'il y a quelque chose qui sort de la binarité masculin-féminin aujourd'hui dans l'identité des jeunes, et moi c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'avoir un parcours stéréotypé de transformation complète et de passer totalement d'une identité de fille à une identité de garçon. Certains, oui, mais d'autres sont dans des positions qui sont beaucoup plus intermédiaires et qui leur conviennent tout à fait, qui ont à voir avec les choix de vêtements, les choix de maquillage, les choix professionnels, les choix amicaux, les choix sexuels, les choix relationnels, et que tout ça crée une palette infinie de possibilités d'être aujourd'hui, intermédiaires entre l'homme et la femme, et qui sont finalement beaucoup plus confortables pour un certain nombre d'adolescents.
Lorraine demande, j'ai une question concernant la sexualité des personnes transgenres. Y a-t-il un trait dominant pour le goût du sexe opposé ou pas ? Comment ça se passe dans la majorité des cas ? Qui veut répondre ? Serge Eiffez, Alexei, peut-être ?
Moi, ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la question de l'orientation sexuelle et de l'identité sexuelle, même si, bien évidemment, c'est lié. Être un garçon qui se sent être une fille qui va s'épanouir en fille se représente en général comme étant au bras ou compagne d'un homme, mais pas toujours. J'ai connu beaucoup de garçons qui voulaient devenir des filles tout en gardant une attirance hétérosexuelle pour des filles. Donc c'est comme un garçon qui deviendrait lesbienne, si vous voulez. Donc c'est toute cette, encore une fois, cette palette identitaire qui me paraît importante à relever.
Alexei, c'est votre petite amie à l'époque, je crois, qui vous a permis aussi de faire votre coming out, hein?
Elle m'a poussé à le dire à mes parents, oui, tout à fait. Donc moi, pour ma part, je suis hétérosexuel, mais ça me semble important de souligner que il y a vraiment aucune corrélation entre l'identité de genre et puis l'orientation sexuelle. Et ça, souvent les gens confondent si une personne assignée femme à la naissance va transitionner pour devenir un homme et que cette personne aime les hommes, on lui dit t'avais qu'à rester une femme, t'aimes les hommes, alors que ça n'a rien à voir. Ce sera tout simplement un homme gay. Enfin, voilà. Donc, et inversement, si c'est des femmes transgenres. Donc,
et c'est pas plus compliqué que ça.
Non, on va donner le tournis à vos auditeurs.
Mina, par exemple, nous dit ceci. Je trouve cette transformation totalement contre nature. Vous influencez ces jeunes. Toutes ces idées sont causées par les médias. On ne naît pas avec un mauvais corps. C'est n'importe quoi. Voilà ce message. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre, Alexei? Vous êtes souvent confronté à l'incompréhension, voire au mépris.
Mais ça, je pense, c'est aussi l'endroit où on est. Enfin, je pense qu'il y a des villes où ça peut être plus difficile, ou des cadres familiaux où c'est moins bien accepté. Moi, pour ma part, j'ai été assez chanceux parce que toute ma famille le prend très bien, l'accepte totalement. Et puis, dans mon cadre universitaire, tout simplement, les personnes sont pas au courant. Je suis intégré en tant que garçon. Et dans le monde du travail auquel j'ai été confronté, ou quand j'étais en recherche d'emploi, j'ai pas eu de difficultés non plus. Je les ai mis au courant de ma situation et ils l'ont très bien accepté. Puis le présente plus comme une force, en fait, et comme quelque chose de positif que quelque chose de négatif.
Mais on voit quand même dans le documentaire Lise Barnéo de jeunes adolescents, très jeunes, dont le changement se fait, et des professeurs qui sont d'accord pour changer aussi le prénom, pour les appeler par leur nouveau prénom.
On en voit évidemment, mais je voudrais souligner qu'on voit aussi énormément l'inverse. Des écoles qui rejettent les enfants ou qui leur disent, écoutez, nous, on ne pourra pas vous assurer de changer votre identité. Les professeurs pourront encore vous appeler sous votre ancien prénom. On voit aussi beaucoup de trans qui ne trouvent pas de travail, et c'est clairement de la discrimination. Nous-mêmes, quand on a fait le documentaire, on a eu beaucoup d'obstacles de ce genre, de refus de communication par crainte de réaction euh, La structure interdisciplinaire dont parlait Serge Effez est très réticente à parler, à communiquer sur ce projet, notamment de crainte de ces manifestations hostiles.
Ouais. C'est pour ça que je disais que j'étais chanceux pour ma part, parce que c'est vrai que moi j'ai pas vraiment expérimenté tout ça, enfin eu d'expérience, de mauvaise expérience plutôt, mais voilà, il y a aussi l'autre côté avec toute cette discrimination qu'il faut pas oublier et qui est encore très présente.
Et vous entendez ces paroles justement, Serge Effez,
hein. Oh là là, ô combien, ouais. et je dirais avec une petite inégalité entre les garçons et les filles, c'est-à-dire c'est beaucoup plus difficile pour un garçon de se féminiser, ce qu'il subit comme brimade, comme insulte, comme ouais. brimade, même comme attaque corporelle, physique. C'est absolument attaque physique, c'est ouais. absolument terrible. On tolère beaucoup mieux aujourd'hui une fille un peu masculine, et puis après tout une fille aux cheveux courts en pantalon, il y en a des milliers, ça ne choque personne. Mais le parcours des garçons peut être extrêmement pénible. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de suicides chez ouais. les garçons que chez les filles.
Et rappelons, Lise Barnéou, que nous ne parlons pas d'une pathologie.
Hein. Non,
la
non,
question
non,
transgenre n'est pas une question de maladie.
Ce n'est pas une maladie, même si au niveau international, c'est encore classé dans le fameux DSM-5, qui est la Bible des maladies mentales. En France, ça a été déclassé, ce n'est plus vu comme une maladie, c'est vu comme une affection longue durée, ce qui permet aux trans de bénéficier de la prise en charge des traitements hormonaux, qui sont quand même ouais. très chers. Mais aujourd'hui, la plupart des spécialistes s'accordent pour affirmer que ce n'est pas une maladie.
Ouais. Allez, filons à Nancy à l'occasion d'une consultation avec une endocrinologue en l'occurrence, et c'est Elena justement qui est filmée et qui est au cœur de cette consultation.
À 2 comprimés par jour. Alors sur la morphologie, la masse musculaire, la masse graisseuse, la pilosité, on aura encore une efficacité plus notoire.
Oui, j'ai remarqué que les muscles étaient vraiment affinés en fait.
Oui, 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 la peau est plus fine et la masse musculaire ne fond pas, mais diminue.
Oui.
Alors le fait d'augmenter le Provamès, c'est-à-dire les œstrogènes, est-ce que vous avez vu des changements au niveau de la poitrine, de la peau?
Oui, j'ai remarqué des changements, mais j'ai l'impression qu'elle pousse un peu de travers en fait.
Le plus souvent, ça se compense au cours du développement. Hein. Donc, de toute façon, une puberté ne se fait pas en quelques mois, mais plutôt en 2-3 ans, hein, normalement. Donc, là, mais vous trouvez qu'il y a quand même un développement qui commence à être intéressant.
Oui, oui, ça commence, oui. Ça a quand même, la masse a augmenté quand même.
Hein, oui.
Voilà, Lise Barnéou, un commentaire sur cet extrait du film.
Alors tout d'abord, Elena nous a tous beaucoup bouleversés.
Oui, absolument.
C'est une jeune fille
de Meurthe-et-Moselle qui est extrêmement touchante.
Extrêmement touchante.
Magnifique.
Et qui, elle, pour le coup, a un parcours plutôt difficile. Elle n'est pas soutenue par sa famille et elle est un peu seule.
Oui, très seule, ouais, voilà. On sent...
Alors ensuite sur l'hormonothérapie, donc Elena là, prenait des hormones croisées, donc des œstrogènes. Mmh. Mais avant ça, nous le cœur du film était plus sur les bloqueurs de puberté qui finalement permettent aux jeunes qui s'y prennent suffisamment tôt de bloquer le développement des caractères sexuels secondaires comme la poitrine ou la pilosité. Et c'est beaucoup plus facile ensuite pour ces jeunes de prendre des hormones croisées et d'avoir l'apparence qu'ils désirent depuis leur plus jeune âge.
Alexei, est-ce qu'on s'embarque dans ces traitements de façon très légère ou est-ce que quand même ce sont des traitements lourds avec des complications, des effets secondaires? C'est pas anodin quand même de prendre des traitements hormonaux.
C'est pas anodin et puis il faut savoir qu'une fois qu'on commence, il faut savoir que c'est un traitement qu'on prendra à vie.
Ouais.
Enfin bon, c'est possible de l'arrêter. On va pas rentrer trop dans les détails, mais quand à partir du moment où on commence, c'est un traitement qu'on est parti pour prendre à vie. Est-ce que c'est, moi je le considère pas comme une charge parce qu'il m'apporte les changements que je souhaite. Donc on va parler de la prise de masse musculaire, la répartition des graisses,
la disparition de la poitrine aussi.
Non.
Non.
Ça justement, c'est... Soit vous avez pris les bloqueurs et vous ne les avez pas.
En tout cas, ça fait partie évidemment des changements que vous avez envie d'opérer.
Oui, mais qui ne sont pas influencés par la prise d'hormones.
Absolument.
La prise d'hormones, elle va jouer sur le fait que la voix va baisser, l'augmentation de la pilosité, la répartition des graisses, l'augmentation de la masse musculaire. Mais après, tout ce qui est lié au corps, je veux dire, ça ne va pas faire disparaître la poitrine.
Il faut subir des interventions chirurgicales pour ça, en l'occurrence. Et donc la lourdeur des traitements, donc, c'est quelque chose avec lequel on vit relativement bien.
Oui, voilà. Et puis après, au niveau des effets secondaires, moi, pour ma part, en tout cas, il n'y en a pas eu. Et puis, voilà.
Quel problème pour les changements d'état civil, demande Christine.
Alors là, ça c'est un petit peu plus compliqué. Les lois sont en train de changer dans la bonne voie.
Oui.
Donc moi, pour ma part, mes papiers sont pas encore changés. Donc c'est assez compliqué dans des situations du quotidien, que ce soit récupérer un colis à la poste ou des inscriptions à la fac où c'est toujours votre prénom justement d'état civil qui est dessus. Donc d'une part, ça a un coût et puis c'est encore très long à faire changer son état civil. Les procédures sont longues et coûteuse, donc c'est pas encore idéal pour l'instant.
Dominique qui répond à notre auditrice tout à l'heure, Mina, à l'âge de 2 ans, dit-elle, on ne peut pas être influencé par les médias et pourtant on peut parfaitement manifester ce qui ne va pas.
C'est voilà. Vrai.
On va terminer là-dessus.
Absolument.
Et puis inviter les auditeurs à regarder ce documentaire ce soir. Donc devenir il ou elle que vous avez signé, Lise Barnéou. Avec votre consoeur.
Co-auteur Lorraine de Béziers.
Voilà, et débat qui suivra justement ce soir après la diffusion de ce film à 20h45. Merci infiniment tous les trois d'être venus aujourd'hui dans La Tête au Carré.
La chronique de Pierre Barthélémy en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Et aujourd'hui Pierre, vous nous parlez du problème du petit monde. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors imaginez Mathieu, vous avez pris vos vacances sur une île grecque et vous y rencontrez un compatriote et en discutant avec lui, vous vous apercevez que le cousin de sa belle-sœur est le meilleur ami de votre charcutier, à moins que ce soit le contraire.
C'est dingue.
Et vous vous exclamez que le monde est petit. Alors le problème du petit monde, c'est si nous prenons 2 personnes au hasard, quelle est la probabilité pour qu'elles se connaissent ? La réponse est infime. Mais si on construit une chaîne d'amis ou de connaissances entre les deux, combien de maillons, combien de degrés de séparation seront nécessaires pour les joindre ? Plus difficile à dire. Le problème du petit monde est assez ancien et il a intéressé aussi bien les mathématiciens et les sociologues que les urbanistes ou les théoriciens de la communication. Plusieurs chercheurs s'y étaient déjà cassés la tête ou les dents, jusqu'au moment où, il y a exactement 50 ans, le psychologue américain Stanley Milgram, célèbre pour ses travaux sur la soumission à l'autorité, a eu une idée bête comme chou pour trouver la solution.
Ah, qu'est-ce qu'il a proposé, Stanley ?
Et Stanley, tout simplement, de faire l'expérience. Parfois, les solutions les plus improbables sont les plus évidentes, ou le contraire. En 67, donc, Milgram extorque $680, une grosse somme, à l'université Harvard pour préparer et lancer son test. Il choisit de se concentrer sur les États-Unis, à l'époque peuplés de 200 millions d'individus tout de même. Il envoie un dossier à plusieurs habitants de Wichita, dans le Kansas, pris au hasard. Et dans ce dossier, il donne la règle du jeu aux participants. Ils doivent transmettre le dossier à une personne cible, en l'occurrence l'épouse d'un étudiant en théologie de Harvard, qui se trouve à Cambridge, dans le Massachusetts, à 2300 km de Wichita. Si les participants n'ont pas de lien avec la cible, ce qui est évidemment le plus probable, ils doivent transmettre le dossier à celui de leurs amis qui est le plus susceptible de la connaître, et ainsi de suite.
Ça a marché ou pas alors ?
Emil Graham a reconnu qu'il s'était demandé si ça fonctionnerait, que si c'était pas complètement naïf comme idée, et combien de temps allait durer ce jeu de « passe à ton voisin ». Mais quand un fermier du Kansas a transmis le dossier à son pasteur, qu'il a envoyé à un pasteur de Cambridge, et qui a remis lui-même le dossier en main propre à la cible, Milgram a compris que le monde était vraiment petit. Alors tous les dossiers ne sont pas arrivés à destination, mais pour ceux qui sont parvenus, on a compté en moyenne que 5 à 6 degrés de séparation entre les habitants de Wichita et la cible, et à l'époque, Facebook n'existait pas. Il est donc probable que chacun d'entre nous soit beaucoup plus proche qu'il ne le pense de n'importe quel terrien. J'ai fait le test moi-même.
Ah oui, avec qui
en prenant complètement au hasard Donald Trump,
mon
ami.
Ah mais oui, mais oui.
Et je me suis aperçu que seulement 3 degrés m'en sépare.
Ah, c'est tout ?
Ouais, presque un pote.
Ah, mais c'est ça, ouais.
Le monde est vraiment trop petit.
Ben, vous êtes content, à force de parler de lui toutes les semaines, il fallait bien que ça vous arrive. Pierre Barthélémy, on retrouve cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu du supplément ?
Alors, cette semaine, le grand dossier est consacré au progrès récent de l'intelligence artificielle dopée par une vieille idée, les réseaux de neurones.
Ouais, et puis, nous avons notre collection Voyage dans le cosmos également qui va sortir demain, dont nous sommes partenaires. Hein. Et le thème demain, donc ?
Le thème de demain, c'est le boson de Higgs.
Merci Monsieur Barthélémy, à mardi prochain.